Radio Vatican, France et Afrique.
Mes auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre programme, au cours de laquelle nous reviendrons sur quelques temps forts de l'actualité du pape au cours de cette semaine qui s'achève. Dans l'actualité de l'Église en Afrique, au Tchad, nous parlerons de la formation dont viennent de bénéficier des femmes des provinces de Bangor dans le diocèse de Pala et celle de la province de Tanguilé dans le diocèse de Lae. C'était du 19 au 20 juin au centre de formation de Lama Lam à Bangor. Après l'actualité sociopolitique africaine et la méditation avec les lectures du 12e dimanche du temps ordinaire, nous échangerons avec notre invité du jour, le père Jean-Gilbert Mavungo, premier secrétaire général des États généraux de l'archidiocèse de Pointe-Noire en République du Congo-Congo-Brazzaville. Il nous fera le point des travaux de ces assises.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Commençons tout de suite avec la semaine du pape, la synthèse des activités qui ont marqué la semaine du Saint-Père. Et c'est avec Stanislas Kambashi.
Plusieurs audiences étaient inscrites au programme du pape samedi. Le Saint-Père a reçu plusieurs groupes et personnalités. François a notamment reçu les membres de la Fondation Centesimus Annus Pro Pontifice qui participent à leur conférence internationale annuelle à Rome. L'intelligence artificielle et les paradigmes technocratiques. Comment promouvoir le bien-être de l'humanité, les soins de la nature et un monde de paix et les thèmes de leur rencontre. Pour le pape François, le thème de l'intelligence artificielle mérite une attention particulière. Une analyse pluridisciplinaire est indispensable pour appréhender tous les aspects actuels et prospectifs de l'intelligence artificielle, les avantages qu'elle peut apporter en termes de productivité et de croissance et les risques qu'elle peut comporter afin d'identifier les bonnes manières éthiques de la développer, de l'utiliser et même de la gérer. C'est la dignité humaine qui est en jeu. Elle ne peut faire objet d'aucun compromis. Message du pape François samedi aux participants à la manifestation nationale italienne pour la vie, intitulée « Choisissons la vie ». Cette manifestation nationale rassemble 130 associations. Au courant de la semaine qui vient de s'achever, le pape François a reçu en audience vendredi les évêques de la Guinée en visite ad limina apostolorum. Plusieurs points ont été abordés, entre autres les relations Église catholique-Islam, Église-État, mais aussi les rapports entre les évêques, les prêtres et les peuples des dieux. Un échange vidéo en direct entre le pape François et des étudiants asiatiques et originaires du Pacifique s'est tenu jeudi dans le cadre de l'initiative Building Bridges, construire des ponts, organisée par l'université jésuite Loyola de Chicago en collaboration avec la Commission pontificale pour l'Amérique latine. Restez fidèles à vos convictions et à votre foi, leur a dit le pape François. Le pape a reçu jeudi une délégation de la Fédération luthérienne mondiale. François s'est réjoui de leur venue, qu'il a perçue comme un important geste de fraternité œcuménique et une occasion de revenir sur les chemins parcourus depuis les conciles de Nicée, dont les 1700 ans seront justement célébrés en pleine année jubilaire 2025. L'Église est attentive à vos recherches et les encourage. C'est ce qu'a affirmé le pape François jeudi aux scientifiques qui participaient à une conférence promue par l'Observatoire astronomique du Vatican sur les trous noirs, ondes gravitationnelles et singularités de l'espace-temps à l'honneur du prêtre et astronome belge Georges Lemaître. Le pape a poursuivi mercredi son cycle des catéchèses sur l'Esprit-Saint en revenant en particulier sur les prières des psaumes inspirées par l'Esprit et qui restent essentielles à notre vie de foi. Toujours mercredi, le Saint-Père avait aussi rappelé la célébration de la Journée mondiale du réfugié le lendemain 20 juin, promue par les Nations unies. Il a lancé un nouvel appel aux États à s'efforcer d'assurer des conditions humaines et de faciliter les processus d'intégration des migrants. Lundi et mardi, le pape François avait présidé la réunion du C9, le conseil des 9 cardinaux chargés de les conseiller dans la réforme de la curie romaine. Mardi, le Saint-Père a créé une nouvelle province ecclésiastique à Ndola, en Zambie, et a nommé son nouvel archevêque, Mgr Benjamin Firi.
Au Tchad, les femmes des provinces de Bangor dans le diocèse de Pala et celles de la Tanguilé dans le diocèse de Lae ont bénéficié d'une formation portant sur la technique de prévention de gestion des conflits communautaires. C'était du 19 au 20 juin au centre de formation de Lama Lam à Bangor dans le diocèse de Pala. Édouard Takadji.
organisée par la coalition des femmes tchadiennes médiatrices pour la paix durable, grâce à l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie. Cette formation a permis à ces femmes d'échanger et de contribuer à la cohésion sociale en vue d'une réconciliation dans toutes les communautés de ces deux provinces où les conflits intercommunautaires et entre éleveurs et agriculteurs sont récurrents. Les femmes des provinces du Mayekebi et de la Tangilé décident ainsi, à travers cette formation, se mettre au devant de la scène pour aider à trouver des solutions à ces conflits qui entravent non seulement le développement, mais aussi une paix durable. Madame Dikolum Mugalbay, une des formatrices, affirme que les femmes jouent un rôle capital dans la société, mais sont toujours reléguées au second rang.
Vous êtes capables de prévenir, de gérer et de résoudre les conflits qui vont naître dans vos communauté. Vous jouez un très grand rôle dans la société. Vous êtes capable de résoudre à côté des hommes des conflits et éteindre les conflits dans vos communautés.
Elle décide désormais d'aider les provinces respectives dans la gestion des conflits afin de ramener la paix dans toutes les communautés. N'Djamena, Edouard Takadi pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique africaine à présent, la campagne de la présidentielle du 15 juillet au Rwanda s'est ouverte officiellement samedi à 3 semaines d'une réélection attendue du président Paul Kagame qui dirige depuis 24 ans ce pays de l'Afrique des Grands Lacs. Un total de 9 millions d'électeurs sont inscrits pour cette élection qui sera pour la première fois couplée avec les législatives. Plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées vendredi par des miliciens en Ituri, province riche en or du nord-est de la République démocratique du Congo, selon des sources locales. Ces sources attribuent cette nouvelle tuerie au groupe armé Codeco, coopérative pour le développement du Congo, milice affirmant défendre les intérêts de la tribu Landou face à une autre tribu, les Emma. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a appelé dans un entretien les pays d'Afrique de l'Ouest à s'allier à nouveau face à l'expansion du djihadisme après la scission de 3 pays sahéliens avec les organisations régionales. La région doit dégager une volonté politique commune pour pouvoir lutter contre l'insécurité, a déclaré M. Ghazouani en campagne pour un second mandat à Attar, à environ 54 km au nord-est de Nouakchott. On a besoin de coaliser, on a besoin de faire des regroupements, a prêché M. Ghazouani, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Il a plaidé pour un éventuel substitut de l'alliance du G5 Sahel, créée en 2014 par la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad, avec l'appui de partenaires occidentaux pour faire face au djihadisme et aux défis de développement de la sous-région et doté d'une force conjointe à l'action restée limitée. Les autorités maliennes, burkinabées et nigériennes ont décidé en 2022 et 2023 de se retirer du G5 Sahel, instrumentalisé selon elle par la France. Restons dans la région. Les autorités nigériennes ont confirmé le sabotage revendiqué par un mouvement rebelle d'une partie d'un néoloduc acheminant du pétrole brut vers le Bénin, dont la nuit du 16 au 17 juin, des individus mal intentionnés ont saboté une partie du pipeline dans le département de Tesker, a indiqué vendredi soir la télévision publique Télé-Sahel dans un reportage. Le père jésuite Adrien Lentiampa nous introduit à la méditation avec les lectures du 12e dimanche du temps ordinaire.
Chers frères et sœurs, en ce 12e dimanche du temps ordinaire, l'Église nous donne de méditer l'évangile de la tempête apaisée. Nous connaissons bien cet épisode. Jésus qui invite ses disciples à prendre la barque et à passer sur l'autre rive. Il est là, dans la barque avec eux. Mais la traversée n'est pas de tout repos. Le vent leur est contraire et les vagues les submergent. Et devant tout cela, Jésus dort sur un coussin en arrière et ne semble pas inquiet de ce qui constitue aux yeux des disciples un danger imminent. Ceux-ci crient vers lui et Jésus intervient en leur faveur, fait taire le vent et ramène au calme la mer, leur reprochant au passage leur manque de foi. Cette intervention du Seigneur fait passer les disciples de la crainte devant le menace de la mer à une grande crainte devant celui qui se présente comme maître des éléments du monde. Qui est-il donc que celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Cette intervention de Jésus renvoie d'une certaine manière aux paroles adressées à Job, qui sert de première lecture en ces dimanches. « Oui, seul Dieu est le Seigneur de l'univers, lui qui trace à la mer et au vent leurs limites. » L'interrogation des disciples sur ce Jésus à qui la mer et le vent obéissent constitue donc en soi une profession de foi à la divinité de Jésus. Sa reconnaissance comme Seigneur de l'univers, celui qui les sauvera, non pas seulement des dangers des éléments de la nature, mais aussi de la mort éternelle. Celui qui se présente en eux comme le Messie, le oint de Dieu. L'évangile de ce dimanche s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Que des fois n'avons-nous pas l'impression d'une indifférence de Dieu, même lorsque, comme chrétiens, nous suivons ses indications et essayons de ramer vers les divers horizons qu'il nous indique. Devant notre propre situation, devant la situation de nos pays et du monde, en face de ce que peut vivre aujourd'hui l'Église, nous aurions aujourd'hui envie de crier vers lui, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Laissons-nous joindre par cette parole de Jésus. « Pourquoi êtes-vous si craintif? N'avez-vous pas encore la foi ?» C'est un appel à la confiance en sa présence constante dans nos vies, même lorsque nous avons le sentiment de ne plus sentir cette présence. Il est là au cœur de nos vies, et c'est lui qui nous fait vivre. Appel aussi à être attentif à cette présence, que nous étouffons parfois par la crainte de vagues contraires qui souvent nous font sombrer. Appel à reconnaître l'amour infini du Père, qui, par son Fils Jésus, n'essaie de nous donner vie et souffle, malgré nos égarements. Si, devant l'autorité de Jésus sur les vents et la mer, les disciples ont entrevu sa divinité, nous aussi, devant cette présence aimante de Dieu dans nos vies, nous pouvons pousser cette exclamation admirative. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Cette exclamation doit nous transformer en faisant de nous des créatures nouvelles. Elle constitue une invitation à centrer notre vie sur Jésus qui est mort et ressuscité pour nous, comme nous l'enseigne la deuxième lecture de ce jour. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. En ce dimanche, demandons donc au Seigneur de nous donner de découvrir jour après jour sa présence agissante dans nos vies, qui nous accorde de voir toutes choses sous les regards de son amour infini, de vivre de cet amour, car c'est cela le plus important. Ainsi soit-il.
L'archidiocèse de Pointe-Noire en République du Congo-Congo-Brazzaville a organisé ses premiers états généraux du 4 au 15 juin dernier en la cathédrale Saint-Pierre de cet archidiocèse. L'initiative voulue par Mgr Abel Liluala, l'ordinaire du lieu, a réuni toutes les entités diocésaines. Ces états généraux ont constitué un véritable diagnostic des structures diocésaines en vue de déceler leurs insuffisances à corriger, mais aussi leurs nombreuses potentialités à fructifier pour une véritable redynamisation de cette archidiocèse, a fait savoir le père Jean-Gilbert Mavungo, premier secrétaire général des États généraux de l'archidiocèse de Pointe-Noire, dans cette première partie de l'entretien qu'il a accordé à Radio Vatican.
Pour tout commencer, Mgr Abel Liluala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, venait d'être installé dans sa charge. Il était donc de bon aloi qu'il fasse l'état des lieux, des structures et autres réalités soumises à sa juridiction et à son administration, et cela avec tout le personnel ecclésiastique, les communautés religieuses en mission dans sa circonscription ecclésiastique, ainsi que tous les représentants des fidèles laïcs et des groupements d'apostolat, de mouvements. Donc, question de bon sens d'abord, au réflexe normal de toute personne qui prend en marche une société ou une charge. Ensuite, comme ancien vicaire judiciaire, ayant toujours vécu dans le diocèse, il avait déjà grande connaissance des atouts et des failles du diocèse. C'est tout cela qu'il a voulu mettre sur une table ronde en famille-église dans les états généraux, afin que tous ensemble, sans honte ni peur, nous prenions courageusement des orientations et décisions dans un esprit de synodalité qui est au goût du jour dans l'église.
Quelle a été l'organisation mise en place?
C'est qu'à partir de certaines structures déjà existantes et des réalités ou phénomènes nouveaux qui interpellent l'Église et où attire son attention, nous avons mis sur pied 18 commissions ad hoc au total qui étaient en charge donc de réfléchir sur une grille de thèmes et ou questionnaires qui embrassaient tous les aspects de chacune des communautés de commissions. Par exemple, le patrimoine, la liturgie, la catéchèse, la jeunesse et les lieux de détention et des personnes vivant avec handicap.
Alors, 18 commissions au total, entre autres celles chargées du patrimoine diocésain, de la liturgie et la catéchèse, de la jeunesse, des lieux de détention et des personnes vivant avec handicap. Que pouvons-nous savoir des exposés de ces commissions citées?
Pour le patrimoine, par exemple, il fallait donc inventorier ce qui constitue notre patrimoine et identifier tous les éléments faisant partie de notre patrimoine pour que ce patrimoine-là ne soit pas imaginaire comme l'Équateur, même s'il est éparpillé. Et puis après inventaire, voilà un état de lieu de chaque commission pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et à partir de cela, projeter l'avenir, donc en tenant compte des leçons du passé et aussi des atouts de notre archidiocèse.
Que savoir de la mission qui a été confiée à chacune de ces commissions?
Pour le patrimoine, par exemple, il fallait donc inventorier ce qui constitue notre patrimoine et identifier tous les éléments faisant partie de notre patrimoine pour que ce patrimoine-là ne soit pas imaginaire comme l'Équateur, même s'il est éparpillé. Et puis après inventaire, et pour la commission, par exemple, liturgie, voir ce qui se passe, parce qu'on a remarqué qu'il y avait des dissemblances d'une paroisse à une autre, dans la liturgie, dans la catéchèse. Donc, il fallait réfléchir à harmoniser ou uniformiser ces attitudes, tout ce qui avait de dissemblant. Voilà. Donc, les actions liturgiques et l'action judiciaire, les répondre, par exemple, il faut que dans un même archidiocèse, dans l'Église, qu'on puisse avoir les mêmes pratiques, les mêmes habitudes. C'était à cela. Les critères aussi de recrutement, des catéchistes, des programmes, il fallait uniformiser puisque nous sommes dans un même archidiocèse. Voilà.
Alors, Père, que pouvons-nous savoir de l'exposé de la commission chargée de la jeunesse diocésaine?
Dans la jeunesse, on a noté surtout la violence juvénile et le manque d'emploi. La jeunesse partout est dite faire de lance de demain. On a relevé cela et on proposait donc des programmes qui puissent accompagner les jeunes et les aider à ne plus être désœuvrés. On a émis un éventail de programmes, mais revient à l'évêque de les appliquer. C'est le représentant de la jeunesse, durant son exposé, a expressément signifié que le clergé est moins attentif à eux. Il faut que désormais nous soyons attentifs à la jeunesse. Nous en avons pris acte.
Que dire de la commission chargée du milieu carcéral et des personnes vivant avec handicap?
Oui, en milieu carcéral, par exemple, on a relevé le manque d'assistance juridique des détenus pour la commission justice et paix. Mais cela par faute de moyens financiers et techniques. Bref, c'est le manque des partenaires. On n'arrive qu'à leur prodiguer quelques conseils juridiques. Il y a aussi difficulté quant à nourrir 930 détenus dans un espace prévu pour 80 détenus. Enfin, il y a les personnes vivant avec handicap qui n'ont pas, comme il se doit, une pastorale et une catéchèse adaptée.
Le père Jean-Gilbert Mavungo, premier secrétaire général des États généraux de l'archidiocèse de Pointe-Noire en République du Congo, Congo-Brazzaville.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Voilà, c'est la fin de cette édition de notre programme. J'ai eu un grand plaisir à vous la présenter. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.